Réponses à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capuche Charlie.
Finaliste du secondaire, comment préparer la dissertation et les épreuves pratiques? Pour en parler, nous recevons à présent M. l'abbé Marcus Bindungwa. Bonjour.
Oui, bonjour, Jolie.
Vous êtes professeur à l'Université Pédagogique Nationale, chercheur et écrivain. Alors, les finalistes du secondaire vont passer au mois d'avril prochain la dissertation et les épreuves pratiques qui précèdent la grande session de l'examen d'État. D'après les pédagogues, les finalistes ont beaucoup de chances de réussir si la préparation est bien faite. Alors, comment se préparer à composer une dissertation et à affronter les jurys pratiques, M. Labé?
D'après la dissertation, je sais que c'est pratiquement la maladie de chez nous. L'enseignement antérieur n'assure pas une bonne formation antérieure. Mmh. Bien que la dissertation en sixième année, comme ils sont pris. Alors, comme conseil pratique, j'aimerais dire aux élèves, aux finalistes, que tout commence par le choix et la compréhension du sujet qui leur est présenté. Mmh. Alors qu'ils fassent de leur mieux pour bien comprendre le sujet. Et évidemment, quand on comprend le sujet, on voit les termes clés comme toujours. Et donc, ils ont dégagé le sens de ce sujet. Et ils peuvent passer à la deuxième étape de la rédaction, qui consiste à la collecte des informations, la recherche des idées, mmh. et qui se mettent à écrire les idées qui leur passent par la tête et après au sujet qu'ils auront choisi. Ils écrivent d'abord toutes ces idées, qu'ils fassent un répertoire, en même temps un inventaire de toutes ces idées, en essayant même de les numéroter, idée numéro 1, idée numéro 2, etc., jusqu'à la fin. Mmh. Et après, cet inventaire des informations, des idées qui leur sont passées par l'esprit, ils pourront ordonner ces idées d'abord. Ils ne passent pas directement à la rédaction, parce que quand vous écrivez avec les idées qui sont venues souvent en désordre, pas selon un ordre qui convient pour une belle rédaction, je crois que s'ils font comme ça, ils vont vers une mauvaise direction. Ils commencent d'abord par ordonner ces idées avec des principes simples, qui se ressemblent, se ressemblent. Donc les idées qui se ressemblent, vous les mettez ensemble. Et en mettant ces idées ensemble, ça va vous aider à dégager le regroupement. Ça vous fait déjà des sections, des paragraphes pour organiser votre texte. Et entre ces groupes d'idées que vous aurez eues, il faut aussi les ordonner, voir quel est le groupe qui doit venir avant, quel est le groupe qui doit venir au milieu, quel est le groupe qui doit venir à la fin. Et finalement, à l'intérieur de chaque groupe, il faut ordonner aussi quelle est l'idée qui vient avant, logiquement.
Donc il faut commencer par l'introduction, le développement et la conclusion.
Je préfère qu'il commence d'abord par ce travail de développement. Mmh. En mettant les idées, en organisant les idées.
Mmh.
Et quand les idées sont organisées, à ce moment-là, ils peuvent écrire. Et quand ils ont écrit complètement leur développement, l'introduction devient assez simple. Et les parties de l'introduction, c'est simplement un préambule, donc une idée générale, une phrase introductive qui, sans dire directement de quoi vous parlez, vous sert d'entrée à la matière. Et puis, après cette phrase-là, cette première partie de l'introduction, il y a une deuxième partie qui donne l'objet de la dissertation. C'est-à-dire la thèse qu'on est en train de défendre, le message qu'on veut passer à travers cette dissertation,
oui.
qui est en fait une reformulation du sujet proposé en vos termes, en vous, tel que vous avez compris cela et dans l'orientation que vous avez choisie. Et après, c'est une partie qui oublie, et qui est souvent oubliée, la troisième partie d'une introduction de rédaction, c'est le plan, la structure du texte de développement. Dès lors qu'on avait déjà fait son développement, mmh. on connaît les parties de ce développement, mais ce plan-là, à ce niveau, ce n'est plus difficile. Et après cela, on pourrait, en fait, rédiger la conclusion, qui est la synthèse de la dissertation, et la conclusion n'a que deux parties, Il y a une partie qui dit la synthèse, qui donne donc le résumé de tous les études, les idées qu'on a développées brièvement.
Oui.
Et puis une partie de la fin qui joue le rôle d'ouverture. Donc des matières qui n'ont pas été traitées mais qui sont qui ont trait avec sa dissertation et qui pourraient justement constituer des ouvertures des réflexions prochaines laissées à ceux qui vont qui pourront s'engager dans le même thème prochainement. Voilà de manière vraiment simple et rapidement le plan de rédaction.
Une dissertation.
Que les étudiants, que les élèves ne commettent pas l'erreur de prendre leur stylo et de commencer directement à écrire. Ils vont passer beaucoup de temps pour rien. Ils vont connaître des informations, qu'ils les mettent d'abord en ordre, et c'est après qu'ils vont se mettre à composer les phrases, en commençant par le développement, en passant par l'introduction et la conclusion. Je crois qu'ils seront bien aidés.
Jérémy Do nous appelle de Bandonouville. Bonjour.
Oui, bonjour.
Quelle est votre question?
Non, ce n'est pas des questions, je pense que ce sont des préoccupations. Je ne sais pas, tout ce que les professeurs sont en train de parler, c'est bon ça. Mais vous savez, moi qui vous parle, je suis un professeur, mais vous démenez à toutes sortes d'expliquer aux enfants. Donc vous expliquerez aux enfants comment est-ce qu'on fait la dissertation, faire ça, faire ça, faire ça. Lors de la correction, si vous partez là, papa, je vous dis, si vous corrigez les examens, un autre enfant ne sort pas écrit même 10 lignes. Donc, il passe seulement et dans l'organisation interne qu'il est en train de faire, donc, oui.
Donc, c'est-à-dire, la plupart des élèves ne sont pas, malgré la préparation, ils écrivent, ils rédigent toujours mal leur dissertation.
Malgré la préparation, d'autres élèves n'écrivent même pas 10 lignes, voire même 10 lignes à développer un sujet, donc ils ne sont pas même à penser à cela.
Et pourquoi?
Donc, si vous corrigez, donc, vous constaterez qu'il y a toujours des vides, des vides, des vides, des vides.
Et pourquoi?
En tant qu'expert, qu'est-ce qu'il peut nous donner comme conseil? Je ne sais pas.
Merci. Monsieur l'abbé Marcus.
Oui, merci pour la question au professeur. Ben, je demanderai d'abord au professeur de ne pas se fatiguer. J'ai toujours dit, je commence à le dire au début, que nous avons un problème au niveau du programme national sur le côté de la rédaction. Les élèves ne sont pas suffisamment aidés en matière de rédaction. Nous n'avons qu'une rédaction en sixième année, presque l'opposition raconte toute la journée. Raconter une journée, c'est très facile. Bon, on dit le matin, je fais ceci, à midi, raconte tes vacances, c'est cela. Et après, on saute en pieds joints jusqu'en cinquième année pour une dissertation qui est un effort de création littéraire, qui est un exercice beaucoup plus difficile. Donc, les élèves ne sont pas suffisamment aidés. Que le programme national soit amendé des manières à exercer le plus possible les élèves dans cet exercice de la dissertation. Mais malgré tout cela, que les professeurs eux-mêmes aussi se documentent comme ils se doivent et qu'ils encadrent les étudiants, les élèves plutôt, avec des exercices faits ensemble en classe. Dans les cours que j'assure moi-même, au niveau des pamphlétiques, au niveau de cours d'IRES qui prend une partie de cette matière de la rédaction, nous faisons une rédaction avec les élèves ensemble, en classe, avec les étudiants aussi, en commençant par les choix du sujet, montrer comment on choisit les sujets, selon quels critères, etc., que le sujet soit donné, imposé, ou bien que le sujet ne soit pas donné. Et après, on passe à l'autre étape, la collecte d'informations, la collecte et mise en ordre. Et après, on passe à la troisième étape, la rédaction. Quand les élèves et les étudiants voient avec vous comment vous composez les phrases et comment vous choisissez les sujets,
vous alignez les idées.
Je demande à 5-6 étudiants ou élèves de proposer des sujets. Et de ces 5 sujets, on va choisir. Les arguments que nous allons avancer pour choisir, ça aide déjà les élèves par rapport à leur façon de choisir. Et la façon dont on va mettre les idées en ordre, ça les aide. Et la manière de composer des phrases les aide également en insistant sur les charnières, etc. Pour que les étudiants voient comment tout cela se fait. Ce qui fait défaut, souvent, c'est un peu cela. Ils ne sont pas initiés en fait. On fait des textes et on leur demande de retenir, ou bien on ne fait même pas de texte initiatique de ce genre-là, et on les laisse à eux-mêmes, Alors, les élèves, les fait comme ça, ils sont pas des savants, ils sont pas, tous ne sont pas des génies pour comprendre rapidement ce qui se passe.
Alors, souvent,
donc, la responsabilité est de notre côté, nous autres, enseignants, d'aider les jeunes qui sont parfois bien disposés.
Alors, monsieur l'abbé Marcus, souvent dans les items, on propose des sujets à la fin, on dit sujet à discuter, à commenter, à analyser. Alors, par rapport à tout ça, quelles sont les précautions que l'élève qui compose une dissertation doit observer?
Oui, un sujet de dissertation a souvent deux parties. Il y a une partie qui est l'intitulé comme tel, et il y a une deuxième partie qui est l'orientation de la dissertation. Et parmi les orientations, il n'y en a que deux. Il y a une orientation qui va dans le sens d'un commentaire. Donc on suppose déjà que ce qui est dit là, au niveau de l'énoncé, est déjà accepté. Et on demande à l'élève de démontrer cela simplement, d'expliciter ce que cela veut dire. Alors quand l'élève se trouve dans un cas pareil, qu'il accepte cela ou qu'il n'accepte pas cette idée-là, il est obligé de faire comme s'il a accepté cette idée. S'il a de la réserve à marquer, dans un cas où on fait le commentaire, la réserve vient pratiquement à la fin, à la conclusion, à la partie que j'ai appelée les ouvertures. Mais si c'est un travail qui est laissé sous le mode d'une discussion, en ce moment-là, l'étudiant ou l'élève a la latitude d'aller dans l'orientation qu'il veut. Donc, il y a devant lui le pour et le contre. Alors, selon qu'il est pour ou contre, ça donne la forme et ça change la forme de sa dissertation. S'il est contre, il peut commencer par donner d'abord les avis qui sont pour. Le côté lui ne supporte pas rapidement. Et puis après, il donne plus de place, plus d'espace à la partie qu'il soutient, parce que lui, il est contre.
Alors, professeur Marcus, je vais donner un exemple.
D'accord.
Nelson Mandela avait dit ceci, l'éducation est une arme puissante pour changer le monde. Ce sujet est à discuter, comment l'aborder?
Bon, un sujet pareil, répétez s'il vous plaît.
L'éducation est une arme puissante pour changer le monde.
Ok, bon. Donc, Mandela veut dire tout simplement que le fait d'éduquer les enfants, de préparer la jeunesse qui vient, permet une transformation du monde avec efficacité, quoi. Donc, si on peut dire ça en ces termes-là. Alors, si c'est un sujet à discuter, bon, naturellement, cela apparaît comme une vérité, presque une évidence. Je peux dire que je suis d'accord avec ça parce que l'éducation peut effectivement permettre à changer, à modifier puissamment les choses, quoi. Les gens qui naissent, on voit très bien que quand les personnes sont n'ont pas été bien éduquées, bien on voit le résultat par la suite. Mais on peut prendre quelqu'un qui n'a pas été si bien éduqué, on le change de milieu, on voit après quelques temps qu'il change dans son comportement et dans ses réflexes. Donc c'est évident que ce que le président Mandela dit est valable. Alors si je soutiens cette idée là. Je prends, d'abord, je pourrais peut-être commencer, comme c'est tellement évident, commencer par expliquer un peu le mécanisme de l'éducation. Quel est, comment se fait l'éducation, de manière détaillée, à quoi ça consiste, etc. Et de l'autre côté, j'essaie de dire comment ça peut, dans ce mécanisme-là, effectivement, transformer les gens. Parce qu'on voit bien que quelqu'un, l'éducation, c'est on apporte des informations, on apporte à la fois une initiation pratique. Donc, il y a l'aspect connaissance et l'aspect pratique. Alors, tout cela, ça produit un nouveau comportement. Évidemment, ça signifie que ça peut bien aller dans le sens de d'appuyer cette idée. Donc, rien que la description du processus de l'éducation et le fait de lier cela avec les conséquences surtout positives de l'éducation, on verrait bien clairement que effectivement ce que Mandela a dit, c'est évident. Mais là où on pourrait mettre de la réserve, parce qu'il s'agit d'une discussion, donc je peux aller dans tous les sens, et pour être plus équilibré, j'ai dit ce que cette affirmation-là a de valable, mais en même temps, je montre aussi que une éducation mal assurée ou assurée par quelqu'un qui est comme en train de déformer déjà, parce que de ce côté-là aussi, il y a des éducateurs qui éduquent avec des erreurs. Vous êtes professeur de français, si vous vous avez de mauvaises façons de prononcer les mots, alors tous les enfants que vous enseignez, bon, ils auraient un français avec des prononciations déviées. Alors, donc, je ne donne qu'un exemple du côté du langage, mais on peut aller du côté pratique aussi pour trouver, pour montrer comment une éducation mal assurée par un éducateur qui est lui-même en défaut crée aussi de les déviations.
Les déviations, voilà.
Il y aura transformation, mais pas transformation dans le sens du bien.
Voilà,
il parle dans le sens du bien et pas dans le sens du mal.
Voilà.
Donc, c'est comme ça que je dirais par la suite que, pour terminer, il faut faire attention. C'est une belle idée, mais à condition que l'éducateur ou l'éducateur soit efficace, que ce soit des gens qui passent de mauvais ou de bons comportements,
voilà.
Je pense que ça peut marcher.
Bien. Joseph Mouini nous appelle des Calémi dans la province du Katanga. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à notre invité.
Bonjour. On vous écoute, Joseph.
Ok, moi je suis journaliste à l'Institut Kansomba, précisément à Calémi. Ma préoccupation est que concernant le travail de la dissertation, pour le sujet à discuter, quelles sont les idées qu'on peut commencer? On peut commencer avec la thèse ou de la synthèse. Si vous êtes pour l'auteur, vous allez commencer avec la synthèse ou bien l'antithèse?
Bien, merci Joseph, professeur Marcus.
Oui, bon, commencer par le plan dialectique, ce qu'ils appellent, ce qu'il est en train d'expliquer là, c'est ce qu'on appelle le plan dialectique. Vous avez toujours la thèse, donc le pour, l'antithèse, la position contraire, et la synthèse, qui est comme le mariage entre les deux en prenant les éléments positifs des deux côtés, parce qu'il n'y a pas que du positif dans la thèse et du négatif dans l'antithèse. Il y a du positif et du négatif dans la thèse, tout comme il y a du positif et du négatif dans l'antithèse, et c'est, la synthèse prend les différents éléments. Commencez par la partie que vous soutenez, ou la partie que vous êtes en train de ne pas soutenir. Je pense que c'est relatif. Commencez où vous voulez. Vous voyez que souvent, quand vous êtes pour une position, c'est plus délicat de commencer par la situation que vous ne soutenez pas, en lui donnant peut-être juste un espace réduit. On sent que c'est réduit, mais vous vous étendez plus largement du côté que vous soutenez. C'est plutôt question de largesse de la partie que vous êtes en train de soutenir. Ce que vous ne soutenez pas, réduisez cela, ayez moins d'informations, et laissez la partie que vous soutenez, mettez cela comme une partie large.
En évidence.
Il y a des cas où le sujet est tellement évident que si vous commencez par être contre, vous brusquez finalement tout le monde et même les lecteurs. Tout le monde s'attend à ce que vous commencez d'abord par dire ce qui va et que vous émettez des réserves par la suite. Comme le sujet demandé là de tout à l'heure. Donc on a dû commencer par prouver que c'est réel parce que c'est tellement évident. Et puis, après, on revient quand même sur de la réserve parce que, il y a ceci, il y a des choses à redire. Et la synthèse, dans la conclusion, on dit simplement que l'idée est valable en vertu de tel argument que nous avons déjà donné. Cependant, il y a quand même telle et telle réserve à émettre par rapport à cela. Donc, commencer par ceci ou cela par la thèse ou l'antithèse, c'est indistinct, quoi. Parce que ce que vous appelez thèse, vous appelez cette thèse parce que c'est ce que vous soutenez. Mais celui qui ne soutient pas cela appellera cela antithèse. Donc l'emplacement de la thèse et de l'antithèse, ça dépend de là où vous vous situez.
Voilà.
Si vous soutenez cela, c'est la thèse. Si vous êtes contre, c'est l'antithèse. L'antithèse de l'autre personne.
Alors, professeur Marcus, parlons à présent des épreuves pratiques. Les étudiants, les élèves, en plus de pédagogie, ils vont se retrouver devant les enfants, ils vont enseigner, ils seront écoutés par les jurys, biochimie, les autres vont se retrouver dans des laboratoires ou dans, au garage pour des épreuves pratiques. Alors, comment se préparer à affronter ces épreuves?
Bon, ce sont des épreuves pratiques. Il s'agit de français d'abord. Je ne sais pas ce qu'il faut donner comme recommandation à ces élèves. Ils sont presque devant des facultés. Donc, ils sont déjà presque devant un fait accompli parce que si votre formation antérieure a été forte en français, vous n'aurez pas de problème parce que vous avez appris à parler, vous pouvez bien vous débrouiller. Si c'est une formation lacunaire, bon, ces lacunes-là vont se faire sentir. Bon, mais, dans tous les cas, ne paniquez pas. La première chose, c'est cela. Vous pouvez bien être prêt, mais quand vous paniquez, psychologiquement, vous perdez le tout, et alors vous pouvez échouer pour rien. La première chose, psychologiquement, soyez solide et ne craignez rien. Bon, prenez cela, même si ce sont des gens que vous n'avez jamais rencontrés. Bon. Sachez que ce sont des professeurs comme les vôtres. Dites-vous cela psychologiquement et allez-y, faites ce que vous pouvez. Alors, pour les cours du côté plutôt technique, au laboratoire, justement dans les garages, etc., bon, ayez la même tranquillité, mais bon, seulement prenez le temps, puisque c'est des choses que vous étudiez, disons de vous apprêter comme il faut voir. De revoir les formules qu'il faut pour que, au jour et au moment venu, vous puissiez bien vous débrouiller. Quoi. Ne paniquez pas. Ce que vous avez l'habitude de faire, et surtout de bien faire, sachez de le faire et de bien le faire devant ces jurys-là. Donc, j'insiste sur cette préparation psychologique accompagnée d'une préparation là où c'est des matières. Qu'on a l'habitude d'étudier, qu'on va étudier le même mélange que vous faites dans votre laboratoire de chimie ou de biologie, ce sera le même mélange que vous allez faire même si vous changez de laboratoire. Vous pouvez changer de laboratoire, mais le soufre sera soufre, je ne sais pas moi quoi d'autre, enfin quel autre produit chimique, ça restera comme tel, de l'acide, c'est l'acide, donc vous savez comment ça réagit, et faites de la même manière parce qu'on ne vous demandera pas ce que vous n'avez jamais appris, non, à moins que votre école soit en difficulté, parce que ça c'est notre situation, on se devant dans les centres de l'examen d'État, parfois on a affaire à des élèves qui n'ont pas été préparés suffisamment. Il y a beaucoup d'écoles qui n'ont pas de laboratoire, qui vont se retrouver dans des laboratoires pour la toute première fois. Alors il n'y a pas de miracle à faire là-dessus. La faute c'est pas aux jeunes gens, la faute c'est à ces écoles et au ministère qui devait faire le contrôle qu'il faut pour que les écoles qu'on a agréé soient des écoles. Si c'est la biochimie qui est un laboratoire de chimie, si c'est la maths physique qui est un laboratoire de physique, si c'est pas moi l'essence médicale qui est le laboratoire qu'il faut, quoi.
Oui. Bien, merci Monsieur l'abbé Marcus Dungwa. Nous rappelons que vous êtes professeur à l'Université Pédagogique Nationale. Vous êtes chercheur et écrivain. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions et à la prochaine.
Ok, je vous en prie, à la prochaine.